Chapitre 69. Seul, Gabriel marchait sur la digue en direction de sa voiture. Quelque chose d'intimement beau et mélancolique se dégageait de cette grande baie où la mer se retirait si loin qu'on ne la distinguait plus. Le gris du ciel s'écrasait sur le gris de la mer, de teintes aussi puissantes que les bleus du sud, tout en contraste avec le jaune coquille d'œuf de l'étendue sauvage et ancestrale du sable. Gabriel s'arrêta et fixa le fil d'argent de l'horizon. Le vent glacé qui frappait la partie toute raidie de son visage maintenait son corps dans un état de stress nécessaire. Il avait vu la maison de fou, ses couloirs qui n'en finissaient pas, cette représentation de la psyché dérangée de Caleb Traskman et la pièce cachée où avait vraisemblablement vécu Julie. Il avait croisé le regard abattu du fils Traskman, n'avait pas eu la force de s'en prendre à lui. Le tabasser n'aurait causé que des problèmes supplémentaires. Il reprit sa marche et croisa deux voitures de police en pleine course vers la route du phare. Paul les attendait sur place afin de lancer les procédures. Les collègues du Nord allaient fouiller le labyrinthe, procéder à des relevés, sonder les alentours de la villa avec un tas d'appareils, à la recherche d'un ou de plusieurs corps. Cela prendrait des semaines, mais Gabriel le sentait, il ne déterrerait pas Julie. Elle n'était plus ici depuis longtemps. La vraie piste était désormais celle dans laquelle Paul allait s'engouffrer. Celle de la photo avec la tache de naissance, sortie, l'espérait-il, de l'appareil d'Andrea à Burgel. Gabriel se fit violence pour ne pas foncer vers la capitale et aller fouiner lui-même du côté du palais de Tokyo. Paul avait déjà pris suffisamment de risques à cause de lui, et il avait promis de le tenir au courant de ses découvertes. Si Abergel avait des noms ou des informations à livrer, Paul saurait les récupérer. Descendu sur la plage, il contempla encore la mer, dérangeant à peine les bécassos resserrés en petits bouquets de plumes. Jamais il ne saurait ce que Julie avait subi ici. Combien de temps avait-elle dû espérer son secours? Il n'avait pas été là. Il n'avait pas su l'aider. Tristement, il regagna l'île, le quartier de Wasem, et remonta jusqu'à son appartement. Le Russe avait pris soin de refermer la porte derrière lui et n'avait rien retourné cette fois. Gabriel contacta un serrurier qui vint dans l'heure. L'homme ne lui posa aucune question lorsqu'il se rendit compte de l'état de son visage. Il fit le job, demanda son argent et disparut. Gabriel avala deux dafalgans, se tartina la joue et la tempe de crème qu'il trouva dans la petite pharmacie de la salle de bain. La douleur le lancinait dès qu'il appuyait trop au niveau de l'arcade, mais elle lui rappelait qu'il était vivant et à quel point il l'avait échappé belle. Il se coucha sur le lit, exténué, comme si son corps décompressait soudain de la tension de ces derniers jours. Il s'endormit d'un lourd sommeil sans rêve. À son réveil, vers 14h, il fouilla dans le réfrigérateur, dénicha du jambon et des carottes râpées sous vide qu'il avala sans plaisir. Il faudrait aller faire les courses, bientôt, téléphoner au propriétaire pour l'informer de l'installation de la nouvelle serrure, mettre le nez dans sa paperasse et prendre des rendez-vous pour son problème de mémoire. Puis sans doute se dégoter un travail. Le solde de son compte en banque ne serait pas éternellement positif. Mais comment décrocher un job avec son cerveau en compote? Que mettre sur son CV? Il était gendarme, enquêteur. Saga, son chalet à Albion, c'était toute sa vie d'avant. Il observa autour de lui ces pièces minables, cette absence de couleur, de décoration. Le parfait cliché de l'homme célibataire, sans passé ni avenir, sans projet. Il angoissait déjà à l'idée des prochaines semaines. Qu'allait-il devenir ? Au moins, tant qu'il parcourait les routes, ou qu'on tentait de le tuer, il n'avait pas le loisir de ruminer. Quoi de pire que de se retrouver seul, à table, face à un mur aveugle? Que ce claquement sinistre de sa fourchette dans son assiette? Voilà pourquoi il n'avait jamais cessé de rechercher sa fille. Cette quête était la petite flamme qui l'avait maintenue en vie. Sans cet objectif chimérique, il aurait fini dans l'état de la mère de Mathilde. À cette pensée, il extirpa de sa poche le post-it avec le numéro de Josiane Lourmel. Il n'arrivait pas à oublier son visage et éprouva l'envie de l'appeler. Mais pourquoi? lui raconter que sa fille avait été photographiée sur une table d'autopsie après être passée entre les mains de Sadik, lui révéler qu'un fou l'avait peinte avec son sang. Avec regret, Gabriel chiffonna le papier et le jeta à la poubelle. Quand il exécuta ce geste, il se demanda s'il avait eu une vie amoureuse durant ces années d'oubli. Hormis Vanda, avait-il connu des femmes? Il déposa sa vaisselle dans l'évier et prit son téléphone avec déjà le furieux besoin d'avoir des nouvelles de Paul. Était-il déjà à Paris? Avait-il pu parler au photographe et récupérer le nom du légiste? Gabriel rageait d'être ici, inutile, alors que lui était là-bas. Il tournait en rond. Afin de s'occuper, il lança le navigateur Internet de son portable. Même enfermé chez lui, il pouvait essayer de tisser des liens entre Caleb Trastman et Henri Chmielnik. Peut-être Google mettrait-il en évidence des rapports entre les deux hommes. La façon, l'endroit où ils s'étaient connus, ce genre de choses. Il tapa Caleb Trastman, Henri Chmielnik. Et Caleb Trastman, Arvel Gaessa. Mais ni l'une ni l'autre des requêtes ne renvoya de résultats pertinents. Il n'y avait aucun cliché des individus ensemble ni d'articles les citant tous les deux. Pour le monde virtuel, ces artistes étaient autant dissociés que le pape l'était de la tortue des îles Galapagos. S'ils se fréquentaient, ils le faisaient à l'abri de toute lumière. Arvel Gaessa seul ne donna rien non plus. Chmielnik n'était donc absolument pas connu en tant que peintre. Ses créations étaient restées anonymes, confidentielles, circulant sans doute de main en main en dehors des circuits officiels. Il s'agissait a priori bien de cadeaux qu'il offrait à droite à gauche. Gabriel se dit que le mot « cadeau » n'était peut-être pas le terme le plus approprié. « Poison » sonnait mieux à ses oreilles. Dans la barre de recherche, il effaça Arvel Gaessa et tapa « Le Caravage ». L'homme cadulait l'industriel belge. Il se plongea dans des articles. C'était bien ça. Le peintre prodige italien avait tué un adversaire au cours d'un duel, avait fui et était contraint de finir sa vie en exil. Gabriel s'intéressa à sa biographie. Il survola le passage sur sa jeunesse, suicide du père, mort de la mère à ses 14 ans, extrême solitude. Sulfureux, le Caravage, véritable génie, avait enchaîné des œuvres éclatantes, mais agressives. Il avait converti des scènes tirées des évangiles en scènes de la vie contemporaine. Sous son pinceau, le criminel pouvait arborer un visage doux et l'innocent un corps laid. Il s'était concentré sur le négatif, l'envers du décor, la violence dans une dimension inavouable de beauté qui subjuguait, perturbait, choquait. Le tableau Judith et Holopherne fit frissonner Gabriel. La décapitation et la gorge tranchée. Le sang jaillissant des artères. Le pouvoir de fascination de ces toiles était à des années-lumière de celle de Gaessa. Mais Gabriel entrevoyait de subtils points communs. Notamment avec la Méduse, dont le Belge s'était sans nul doute inspiré pour les regards glaçants et les chevelures tortueuses de Julie et Mathilde. Les dernières années du Caravage avaient été particulièrement sinistres. Après sa fuite à Malte, accusé de viol et de sodomie, il fut condamné. Il parvint à s'enfuir de prison, puis se peignit en victime repentante, réfugié à Naples. Nombre de ses peintures furent destinées à racheter son meurtre. Gabriel s'appesantit sur « David avec la tête de Goliath ». Le Caravage s'y était représenté en incarnation du mal. Les nerfs, les tendons à l'air libre au niveau du cou, deux larges iris noirs exprimant la froideur la plus extrême. Il y avait incontestablement un air de ressemblance avec la production de Gaessa. Gabriel apprit plus loin que, d'après certains spécialistes, le Caravage illustrait l'horreur la plus abjecte sans la ressentir. Il attendait de voir l'angoisse ou le dégoût se refléter dans les yeux des visiteurs venus admirer son travail pour mesurer la force évocatrice de ses œuvres. Arvel Gaessa cherchait-il à l'imiter en offrant ses visages maudits à des connaissances? Scrutait-il chaque vibration de leurs pupilles, l'expression de leurs regards au moment où les observateurs découvraient ses toiles? Éprouvait-il une forme de jouissance en se disant « Vous voyez la monstruosité, mais vous ne savez pas qu'elle existe réellement. » Gabriel but un verre d'eau, pensif. Il pressentait une connexion profonde entre Traskman et Gaëssa. Un fil d'Ariane qui allait au-delà de la simple rencontre charnelle. Un lien beaucoup plus invisible et cérébral. Comme l'avait dit Paul, ces deux hommes ne faisaient pas partie du commun des mortels. Ils évoluaient à part, peignaient ou écrivaient l'acte interdit. Ils étaient des êtres renfermés, habités par leurs démons. Il ouvrit la galerie photo de son téléphone. Paul avait raison, il fallait effacer ces images de cadavres. Il afficha celle du Russe en grand et se revit au fond de l'entrepôt, face à la mort incarnée. Lui, attaché, la laine de son tortionnaire en plein nez, la violence des coups. Il se rendit compte à quel point ses mains tremblaient et essaya de se calmer. Son regard revint vers le bourreau. Arvel Gaëssa lui avait fourni depuis de longues années, vraisemblablement, le local et l'acide pour se débarrasser de corps. Traskman le savait. Et un autre individu était très certainement aussi au courant. « Parce qu'on me paie, c'est mon boulot », avait dit le Russe. Qui tirait encore aujourd'hui les manettes de cette abominable machinerie? Quel démon payait un homme pour dissoudre des gens? Qui étaient ces victimes nues imprégnées de formol? D'où venaient-elles? Pourquoi? Gabriel passa au cliché des corps. Sous la puissante lumière du flash, leurs traits avaient pris un aspect de cire adipeuse et contrastaient affreusement avec le noir des sacs mortuaires. Deux femmes, 40-50 ans, difficile à dire étant donné l'aspect caoutchouteux de leur peau. Il balaya son écran du doigt, fit défiler les différents angles de prise de vue. Soudain, il revint en arrière. Sur le côté de la hanche gauche, à la limite de la fermeture éclair, une espèce d'inscription. Gabriel zooma. Ça ressemblait à un tampon, à cause du liseré noir autour des lettres en écriture cursive. Une partie était cachée, mais on pouvait lire « Medichny ». Stoku, K-417. Ça évoquait une langue slave. La femme avait été marquée comme une bête. Il sentit des picotements jusqu'au bout de ses doigts, se concentra sur les photos de l'autre cadavre, sélectionna une image où l'on voyait, là aussi, les hanches. Par chance, il avait davantage ouvert le sac dont les bords étaient bien écartés. Cette fois, l'inscription, toujours entourée de son liseré, était complète. « Universität Medichny, Balimstoku, K-442 ». Son cœur s'emballa. Il retourna sur Internet et tapa le texte dans la barre de traduction, qui reconnut immédiatement la langue, du polonais. « Université de médecine de Bialystok, K-442 ». Une cascade d'émotions submergea Gabriel lorsque les engrenages s'assemblèrent dans sa tête. Des cadavres tamponnés et numérotés, l'université, l'odeur de formol. Il s'agissait à coup sûr de corps légués à la science, plongés dans des bains de conservateurs pour que les étudiants puissent s'exercer. Gabriel s'était déjà rendu dans ce genre d'endroit au cours d'un bizutage foireux, au moins 20 ans plus tôt. Dans la faculté, il avait le souvenir de têtes tranchées et immergées dans des aquariums, de macabées dans de profondes piscines transparentes, de bras et de jambes qu'on disposait sur des dizaines de tables de dissection aussi naturellement que si on distribuait du courrier. Là-bas aussi, le marquage était imposé dans un but d'identification et de traçabilité. Mais quel était l'intérêt d'exfiltrer des cadavres destinés à la science en Pologne pour ensuite les dissoudre à l'acide en Belgique? Ça n'avait aucun sens. Complètement perdu et incrédule, il approfondit son enquête. Bialystok, une ville de plus de 300 000 habitants située dans l'est de la Pologne, à quelques kilomètres de la frontière biélorusse. La Pologne. Autre engrenage, autre recherche. Bieszkady, la région des Carpates polonaises où Henri Chmielnik possédait un chalet. C'était à 500 kilomètres de Bialystok, au sud, à deux pas de la Slovaquie et de l'Ukraine. D'après sa femme, Chmielnik y allait pour chasser le loup, seul, plusieurs fois par an. Ça ne pouvait pas être un hasard. Gabriel observa attentivement la carte. Un chalet paumé au milieu des Carpates. Cette partie de la Pologne attirait ses yeux comme un aimant. Il repensa aux racines qui pendaient du plafond chaotique sur les tableaux du peintre. Les arbres. puis à l'autoportrait démesuré de Chmielnik dans son manoir, son air de supériorité et de condescendance, un moyen de dire, comme pour les visages, « Vous voyez, mais vous ne savez pas ». Que cachait ce regard? Que dissimulait ce chalet? Chmielnik avait-il peint ses horreurs là-bas? Il alla vite fouiller la poche de son blouson et y récolta le papier sur lequel Simon Chmielnik avait noté son numéro de téléphone. Il hésita. L'appeler, c'était encore attirer l'attention. Mais il ne voyait aucune autre solution pour se renseigner. Elle répondit au bout de 2 sonneries, lui raconta que le chalet lui appartenait toujours et que personne n'y avait mis les pieds depuis la mort de son mari. Lorsqu'elle voulut savoir pourquoi il s'y intéressait, il lui expliqua être toujours en quête de tableaux similaires aux siens. Peut-être son époux en avait-il réalisé ou conservé dans cet endroit. Il était même prêt à faire un aller-retour en Pologne, juste pour vérifier. Elle n'y voyait pas d'inconvénient, mais ignorait où se trouvait la clé du chalet. Elle n'avait pas réussi à remettre la main dessus. Gabriel la convainquit de lui fournir l'adresse quand même. Il se débrouillerait pour y pénétrer sans faire de casse. Il avait été gendarme, il savait comment procéder. Après lui avoir promis qu'elle connaîtrait elle aussi la vérité, il raccrocha, les yeux rivés sur le morceau de papier qu'il venait de griffonner. L'étincelle brillait de nouveau sur ses rétines. La traque reprenait. Il se renseigna sur Internet. La Pologne, c'était à 2 heures d'avion, et comme pour tout pays d'Europe, une simple carte d'identité suffisait. Il se précipita sur un site de réservation. Des lignes Lille-Cracovie existaient. Un vol décollait à 18h05 et pouvait déjà l'emmener là-bas pour un prix dérisoire. Le plan dans sa tête était limpide. De Cracovie, il louerait une voiture pour la région de Bieszkady. Puis il se rendrait à Bialystok. Il lui restait moins de 3 heures. L'aéroport de Lille-Léquin n'était qu'à 10 km. C'était jouable.